Avec ce soir l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Avant d'évoquer la situation en Nouvelle-Calédonie, Jean-Pierre Raffarin, on voudrait vous faire écouter un petit extrait d'une émission qui s'appelle Quotidien, où Jean-Michel Apathy, le chroniqueur, s'est occupé de vous. Vous êtes un beau costard à propos de la Nouvelle-Calédonie. Écoutez ce qu'il disait de vous hier.
Un peu lourd. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, il a mis 10 minutes sur France Inter ce matin pour nous expliquer que les gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie ont de la chance. De la chance d'être français parce que sinon ils seraient chinois. C'est une pensée archaïque qu'il faut appeler comme elle mérite d'être appelée. C'est une pensée coloniale en 2024. Il faudrait quand même qu'on en sorte, qu'on arrête de raconter des choses qui sont une insulte pour les gens qui sont nés et qui vivent en Nouvelle-Calédonie.
Vous avez encore un mode de pensée colonial, Jean-Pierre Raffarin ?
Parle même d'insulte.
Jusqu'à maintenant, je trouvais cet homme sympathique, mais là, je m'aperçois que c'est son accent qui est sympathique, plus que ses messages. Bon, mais tout ça, c'est de l'écume, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il est clair qu'il y a des enjeux stratégiques, qu'il faut lever un peu le nez au-dessus de la situation locale avec les difficultés que peuvent avoir les habitants. Et je comprends qu'il faut s'occuper des Kanaks, je comprends qu'il faut s'occuper de tous les Français. Mais il est évident qu'il y a des enjeux. Peut-être D'accord, que M. Apathy a oublié notre affaire des sous-marins avec les Australiens. Peut-être qu'il a oublié les propos du Premier ministre sur le Kazakhstan. Et peut-être sur l'Azerbaïdjan. Il a peut-être oublié aussi la pression que fait la Chine dans la région. Donc, c'est un enjeu géopolitique évident. Donc, j'ai parlé, parce qu'en quelques minutes, on peut parler de tous les sujets. Donc, j'ai choisi le sujet parce qu'on m'interrogeait sur le sujet de la Chine. Donc, j'ai répondu qu'il y avait, en effet, un enjeu géopolitique qui concernait la Chine. Mais ça ne veut pas dire que j'oublie les Kanaks. C'était un peu des raccourcis médiatiques.
Mais alors, moi, je ne veux pas jouer Jean-Michel Apathy. D'abord, je n'ai pas l'accent. Mais ce qui est apparu, alors là, pour le coup, vous n'y êtes pour rien. Mais ce qui est apparu, qui, moi, m'a vraiment impressionné, c'est la rapidité de la résurgence entre les Kanaks et les autres. Je dis les autres parce qu'il y a aussi les Océaniens, etc., qui sont de plus en plus nombreux.
Bien sûr.
Et bon, on sait qu'il y a toujours eu des tensions. Pendant les dernières années, elles avaient plutôt diminué. Et là, on les a vus ressurgir avec une forme de violence et des milices, mais des milices de tous les côtés, des milices d'agresseurs, mais des milices de défenseurs. Et franchement, moi, ça m'a impressionné. Ça m'a rappelé les mauvaises années de l'Algérie.
Puisqu'on parle de la situation en Nouvelle-Calédonie, autant écouter ce qu'a dit le président de la République aujourd'hui sur place dans l'archipel. Il appelle au calme, à la levée des barrages. Et surtout, il a insisté sur le pas de passage en force concernant la loi électorale.
Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel, et que nous nous donnions quelques semaines afin de permettre l'apaisement, la reprise du dialogue en vue d'un accord global. Je ferai d'ici un mois, au maximum, un point d'étape pour regarder en conscience les choses et prendre les décisions sur la suite institutionnelle à donner. Et je considérerai évidemment le retour au calme, mais également l'engagement sincère des partis à la reprise des négociations en vue d'un accord.
Bon, alors, est-ce que c'est la bonne voie, c'est la bonne méthode ce que dit Emmanuel Macron, le président de la République ?
Je crois que son aller-retour, c'était surtout la seule méthode pour sortir de l'impasse dans laquelle il s'était mis lui-même. Ça faisait quand même des mois que des gens compétents alertaient. Soit des hommes politiques, soit des spécialistes, tout simplement. Et ça venait de Paris, mais ça venait aussi de Nouméa. Bon, depuis des mois, la voie qui avait été choisie, c'était celle qui menait à un congrès, donc à une loi qui était légitime en elle-même. Je veux dire, le fait d'élargir le corps électoral en lui-même, on ne peut pas dire que ça n'est pas normal.
Même une obligation institutionnelle.
Oui, puis c'est la démocratie quand même. Pas de raison de priver les gens du droit de vote, même si c'est droit de vote local. Bon, mais cela étant, c'était passé les macronistes, LR et le Rassemblement national. Donc ça fracturait par la force des choses et ça a fracturé. Et bon, ça n'était pas la bonne méthode. Il faut reconnaître les choses quand elles sont.
Et là, c'est la bonne méthode qu'il propose ?
C'est la seule. Ça ne veut pas dire qu'elle va marcher. Je n'en sais rien, d'ailleurs, lui non plus, personne ne le sait. Mais la seule voie, c'est évidemment rétablir l'ordre. On ne va pas laisser les violences continuer. Et heureusement, aujourd'hui, il y a les forces de l'ordre en nombre suffisant, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'était aussi une erreur, qu'il y ait moitié moins de monde que la dernière fois qu'il y avait eu des grandes violences. Bon, il y a ça, mais il n'y a qu'un accord politique et la volonté de parvenir à un accord politique. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais surtout en Nouvelle-Calédonie, c'est le problème. Ça prend toujours très, très, très longtemps, alors que là, on parle quand même d'un mois, par exemple, pour la première étape.
Il y a une mission qui va rester sur place.
Oui, moi je suis tout à fait dans cette ligne. Peut-être qu'il y avait une autre voie possible, c'était d'envoyer le Premier ministre. C'est-à-dire de se donner une possibilité d'arbitrage, de commencer les travaux par le premier. Mais en tout cas, il fallait commencer par l'apaisement. Et l'intérêt qu'a le président, c'est que c'est lui qui décide le congrès. Et l'apaisement, ça va être, est-ce qu'on programme le congrès ou est-ce qu'on ne le programme
ça,
pas pour cette
réforme électorale. Ça, on n'a pas bien compris. On pense quand même que la convocation du congrès, pour l'instant, est reportée, même si ce n'est pas dit clairement.
Ce n'est pas dit clairement. Non. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a un accord global, il peut être reporté. S'il n'y a pas d'accord global, il ne sera pas reporté. Non. Donc, je pense que c'est ça l'interprétation. Mais au fond, le président, comme c'est lui qui a la clé, peut-être mieux que ce soit lui qui discute. Mais on pourrait se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas construire, dans les processus de négociation un peu longs, des étapes, et d'abord essayer le Premier ministre, puis ensuite l'arbitrage du président, s'il devait y avoir une forme d'insatisfaction de l'étape numéro 1, on passait à l'étape numéro 2. Mais au total, il est clair qu'il n'y a pas d'avenir sans apaisement, il n'y a pas d'avenir sans reprise du dialogue, et le fait que les indépendantistes, que l'ensemble des différents partis, que le Congrès, que l'ensemble des partenaires aient pu accepter de rencontrer le président et discuter avec le président, c'est une étape importante.
Mais il n'y a pas dialogue, de retour en arrière, le chef de l'État. Ça veut dire qu'il ne lâchera pas cette réforme électorale.
Ça, je pense qu'il y a eu 3 référendums, et les référendums, on ne va pas revenir dessus.
Mais est-ce qu'il y aura un 4e référendum? Parce que ça aussi, il dit qu'il y aura une consultation. Il veut qu'il y ait une consultation sur place.
S'il y a accord global.
S'il y a accord global, donc un 4e référendum?
Une consultation, globale locale, on l'appellera comme on voudra. Si on veut, on l'appelle référendum. Enfin, il n'y a pas de raison de l'appeler référendum, puisque ce qui était prévu, c'était, mais ça prévu depuis très longtemps, c'était 3 référendums successifs à des dates qui étaient déjà choisies.
Alors, ce sera quoi, alors, si c'est pas un référendum?
Ça sera un accord, s'il a lieu, ça sera un accord des différentes parties. Il y a des partis politiques sur place, il y en a une bonne vingtaine. Et puis il y a les chefs coutumiers, etc.
Et ça sera validé par la population, ou non?
Ça va être validé, c'est exactement l'idée.
Sur quoi la question? Qu'est-ce que ce serait alors?
La question, c'est la volonté de travailler ensemble à quelque chose. Attendez. Non, mais de toute façon, ça ne va pas se terminer par une liste de courses.
Bien sûr. Et un mois, c'est suffisant?
Non, mais bien sûr que non. Un mois, c'est pour la première étape, pour manifester une bonne volonté. Ensuite, ça ne sera pas un mois. Mais de toute façon, on est contraint, en ce qui concerne le calendrier, que jusqu'en décembre 2025. Donc, c'est gérable. Mais simplement, il faut avancer. Il faut que, dans un accord, il y ait des choses concrètes. Alors, il y a l'élargissement du corps électoral, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses. Et il ne faut pas oublier dans cette affaire que, on a une crise politique et de violence, mais qu'il y a aussi une crise économique massive à cause de l'histoire du nickel, mais qui est une catastrophe
locale.
Oui, non, mais c'est pas ça. C'est ça, bien sûr, mais c'est la ressource principale de l'île. Bon, et c'est dans un état de catastrophe. Et qu'il y a, notamment pour les jeunes Kanaks, parce que ça, c'est vrai, il y a une situation, pour ceux qui n'ont pas de formation professionnelle, épouvantable, et un niveau de vie qui n'est pas la moitié de ce qu'il est pour leurs homologues métropolitains.
À un moment donné, Emmanuel Macron a dit « l'État sera impartial ». Et c'est justement ce qui était reproché au gouvernement, le fait d'avoir mis en avant le rapporteur de la loi est un député Renaissance très engagé de la Nouvelle-Calédonie. C'était ça aussi l'erreur. L'État doit rester impartial dans ce genre de négociation.
Il y avait un secrétaire aussi. Il y a eu un certain nombre de sujets qui ont crispé un peu la situation. Mais ce qu'est la complexité de cette affaire, c'est qu'il y a deux gravités. Il y a la gravité interne, c'est-à-dire la montée de la violence et cette situation insurrectionnelle avec aujourd'hui des quartiers qui vont être très difficiles à reprendre. Et donc, on envoie des blindés, on envoie quand même
qui vont
des moyens
place,
considérables. Donc, il y a cette gravité-là. Et naturellement, de ce point de vue-là, Paty a raison. Il faut penser à cette discussion-là. Il faut penser au Kanak, il faut penser à tous les Français qui sont là-bas. Mais il y a aussi la gravité de la situation internationale. Et la présence de la France dans le Pacifique, c'est quelque chose de très important.
Pourquoi ? Alors, expliquez-nous ça. Pourquoi c'est important d'être présent là, sur place ?
Parce que toute la dangerosité du monde aujourd'hui se passe là-bas. Parce que c'est la domination de la Chine qui est contestée notamment par l'Inde, mais aussi par un certain nombre de partenaires comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, que la France a eu un certain nombre d'initiatives pour être acteur là-bas et que ces initiatives n'ont pas toujours été encouragées. Je vous rappelle la commande des sous-marins australiens qui a été ensuite passée aux Américains ou aux Anglais. Et donc, on a une situation de très grande compétition. Parce que c'est probablement là-bas que se joue le grand avenir du monde, savoir si on va contenir la Chine ou pas contenir la Chine. Et donc, c'est une question très importante pour nous d'avoir cette légitimité. Nous sommes déjà dans l'océan Indien avec la Réunion, nous sommes déjà présents donc, dans l'Indo-Pacifique et la grande stratégie américaine. Et donc, nous avons besoin d'avoir une place assez forte, si on veut, peser sur l'avenir du monde qui se joue là-bas. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une gravité plus importante que l'autre, mais il y a deux gravités sur ce problème calédonien, une gravité géopolitique et une gravité, disons, sociale et nationale.
Mais sur le géopolitique, dans la région, la France est considérée comme un gêneur.
Bien sûr. Hein,
et en particulier, tout autour de la Nouvelle-Calédonie, on a été condamné par tout le monde hein, dans ce qui s'est passé
bien
là.
Sûr.
Alors, il y a un nombre d'îles incroyables qui toutes ont dit c'est du néocolonialisme, la France retombe dans ses mauvaises habitudes. Et il faut aussi dire, parce que ça n'est pas ce qui a déclenché les émeutes, mais c'est certainement ce qui les a, en tout cas, encouragés, et peut-être un peu plus, il y a aussi des puissances étrangères qui jouent leur rôle, qui ont leurs objectifs, et qui essayent de tout faire pour déstabiliser la Nouvelle-Calédonie.
On a même vu les drapeaux de l'Azerbaïdjan sur place,
oui, alors les gens ne comprennent pas pourquoi l'Azerbaïdjan, mais en réalité, c'est pas tellement compliqué. C'est burlesque que ça se retrouve en Nouvelle-Calédonie, mais sur le principe, la France a heurté de front l'Azerbaïdjan quand l'Azerbaïdjan a voulu remettre en cause la situation locale. Bon, on a été considéré comme quasi belligérant par l'Azerbaïdjan.
Oui, et proche de l'Arménie.
Et comme ça se passe, ça se passe dans les Balkans quasiment. Ils veulent se venger en suscitant des formes de révolte. Mais ils le disent, hein, ils le proclament officiellement.
Les indépendantistes ont été reçus officiellement là-bas.
Et puis il y a un jeu chinois, hein, comme d'ailleurs dans toute la région. Mais d'ailleurs, les Chinois font ce qu'ils peuvent pour s'infiltrer économiquement, politiquement, etc., en se présentant comme les défenseurs naturels des Kanaks, alors que les liens entre la Chine et les Kanaks, c'est une invention contemporaine, bien entendu. Mais bon, on dérange. On a été une grande puissance coloniale. Dans cette région, on était fort. Et aujourd'hui, on est beaucoup moins fort, et surtout, on est beaucoup plus contesté par les autres.
On voit bien aujourd'hui que la géopolitique est globale. On a des tensions avec Poutine et on a une déstabilisation d'Afrique avec Wagner. Et là, on est le pays qui soutient le plus l'Arménie, cette démocratie qui a le droit de vivre et pour laquelle l'Azerbaïdjan veut l'extinction. On est en première ligne sur ce combat et nous avons la riposte sur le territoire calédonien de l'Azerbaïdjan. Oui. Je pense que ça, nous sommes dans une situation globale et c'est pour ça que pourquoi la France a encore un rôle international.
Vous dites même que la France, c'est une chance pour la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi c'est une chance ?
Je pense que c'est une chance parce que c'est une influence importante. C'est au fond le fait que nous soyons présents sur tous les continents. Les deux forces que nous avons sur le plan international, c'est notre présence au Conseil de sécurité, mais le Conseil de sécurité existe de moins en moins parce qu'il est de plus en plus paralysé par les grandes puissances. Et l'autre côté, c'est que nous sommes sur tous les continents et que la France est légitime. C'est pour ça que nous avons une base importante à Djibouti. C'est pour ça que nous avons dans l'océan Indien des pressions très très fortes que nous exerçons sur les uns ou sur les autres. Donc cette puissance de la France, elle passe en partie par cette légitimité de la Calédonie. Donc je ne sous-estime pas la tension sociale, parce que et c'est pour ça que j'approuve les décisions qui sont prises, comme le fonds pour les plus déshérités, tout ce qui est fait aujourd'hui aujourd'hui, et pour la sécurité, et pour le social. Donc il faut mener cette politique, mais il ne faut pas être naïf. Il faut savoir qu'il y a un enjeu en toutes les grandes puissances qui se jouent là-bas, et la France doit défendre sa place.
Bon, et la France a quand même la deuxième espace maritime international, ce qui implique, ça a l'air abstrait de dire ça, ça implique des intérêts économiques et militaires absolument énorme. Et alors là, il faut pas jouer ceux qui se prennent en permanence pour agresser partout. Mais la réalité, c'est que la France, en tant que puissance intermédiaire, est aujourd'hui une cible, et même une cible prioritaire. Les Britanniques s'en tirent mieux dans la mesure où, d'abord, ils s'y sont pris depuis très longtemps, très différemment sur la décolonisation, et ils sont sous l'aile américaine. Donc, voilà, nous, non. Et donc, ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit des pays plus modestes comme l'Azerbaïdjan, on est une cible. Donc, ça n'est pas commode de se défendre dans ces cas-là.
Pour revenir...
Pardon, en attendant, il y a une note, il va falloir payer. Il y a une aide d'urgence qui doit être débloquée par le gouvernement, parce que les dégâts sont considérables. Il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur
commerce. Il faut aider les entreprises locales. Voilà.
Donc on parle de milliards de dégâts.
Et là, c'est la métropole qui va payer. Enfin, c'est le contribuable.
C'est l'État.
Oui.
Bah, les Français.
L'État, c'est nous.
Et qu'est-ce qui garantit que ça ne va pas se reproduire une fois que le président va repartir, que les blindés vont rentrer en métropole parce qu'il y a les Jeux Olympiques aussi à préparer.
Non, ils resteront.
Oui, mais pas tous, pas en intégralité.
Je crois que pendant les Jeux Olympiques, on va maintenir pendant les Jeux Olympiques.
Soyez pas pessimistes à l'excès. Là, justement, le président s'est engagé pour enclencher une discussion. Il l'a enclenché. Il a eu les partenaires en face de lui. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais disons que, pour le moment, un processus de dialogue est engagé. Donc, on va voir ensuite ce que ça donne. Mais c'était important de faire en sorte qu'il y ait un apaisement pour discuter.
Et pour en revenir d'un mot à la présence d'Emmanuel Macron et pas d'un Premier ministre. C'est vrai que la tradition, c'était que c'était le Premier ministre. C'est vrai que cette tradition avait été interrompue. Mais il y a aussi un autre facteur dont il faut tenir compte. C'est que pour les Calédoniens, qui réagissent autrement que les métropolitains là-dessus, le fait que ce soit le président en personne, c'est quelque chose qui leur parle et qui les impressionne plus que dans la métropole, où si Emmanuel Macron va visiter la Vienne, tout le monde ne le regardera pas en ouvrant la bouche. Là, ça compte.
Encore que la Vienne, ça mérite d'ouvrir la bouche.
Et si le Premier ministre...
D'ébahissement. Mais ce qui est aussi important sur l'idée du président, c'est que le président, ça parle aussi à la Chine, ça parle à l'Australie. Le fait que le président lui-même soit sur le terrain, ça parle à tous ceux qui sont acteurs de la situation. Ça parle aussi à l'Inde, parce qu'il y a cette tension complexe entre l'Inde et la Chine. Ils sont ensemble dans les BRICS, mais ils sont séparés dans les influences territoriales. Et nous, je vous rappelle que nous avons ouvert nos bases maritimes à tous les navires indiens, ce qui fait que c'est pas forcément apprécié par les Chinois et par les autres. Donc on est acteur dans cette zone. Donc il est clair qu'on a des conséquences de cela. Mais en l'occurrence, ce qu'il faut, c'est que socialement, politiquement, il y ait ce dialogue qui puisse conduire à l'apaisement dont parle le président.
Et si le Premier ministre reste en métropole, c'est parce qu'il a un débat ce soir aussi face à Jordan Bardella. Justement, ce contexte néo-calédonien, il sera sûrement évoqué. Ça peut avoir un impact, une influence sur le vote du 9 juin, ce que l'on a vu, ces émeutes et autres, selon vous, Alain ?
Ça, à la fois, je dirais que ça a, je crois, deux effets contradictoires. D'une part, tout ce qui touche de la violence, etc., c'est la remise en cause du régalien, donc de l'autorité. Donc ça ressemble à une autorité qui ne s'exerçait pas comme elle devait le faire. Et c'est un handicap. Mais quand c'est le président qui se dérange et s'il obtient un résultat, ça peut équilibrer les choses, disons. Je ne pense pas que ça puisse le renforcer, mais ça peut équilibrer les choses.
Je pense que ça peut-être éclairer les Français sur la dangerosité du monde actuel. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, tout ça est quand même lié à des tensions internationales et que si on veut bien regarder les choses avec lucidité, on est passé d'un monde qui était ce qu'on appelle un monde multilatéral où on cherchait à avoir des régulations avec l'OMS pour la santé, avec l'OMC pour le commerce, on cherchait à réguler. Maintenant, on est dans un monde de rapports de force avec des États-puissances et nous avons besoin de force et cette force, elle s'appelle l'Europe. Donc, je pense que si on regarde bien les choses, la gravité du monde appelle quand même une incapacité de rapport de force. Nous sommes dans un monde maintenant avec toutes ces forces émergentes, naturellement la Chine, les États-Unis, mais aussi l'Inde, mais aussi l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Toutes ces forces-là sont aujourd'hui dans un match de compétition qui est un rapport de force, et nous avons besoin de la force. Elle passe d'abord, ce qui est très inquiétant, c'est que ça n'a pas l'air de marcher fort, elle passe d'abord par une relation franco-allemande puissante, parce que c'est...
Ça ce marche mieux en ce moment.
Mais c'est ça, ça ne va pas fort en ce moment, mais c'est quand même des priorités, parce que la situation aujourd'hui est une situation d'extrême gravité sur le plan international.
Un dernier mot, Alain Duhamel et M. Raffarin, à propos des Jeux Olympiques et de la manière dont les Français perçoivent les Jeux Olympiques, si vous le permettez, à travers ce qu'a dit Mme la maire de Paris, Anne Hidalgo. Écoutez.
Ras-le-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble.
L'expression « les peines à jouir », c'est une expression qui... C'est intéressante, Alain.
Qui vous parle.
Je ne vais pas vous dire que c'est celle que j'emploierais. Bon, mais je pense qu'elle a été très bien comprise, en revanche.
Mm-hmm. Oui, ça.
Là, ça prouve qu'il y a des moments où elle est capable de mener une bonne campagne.
Ah, c'est bon pour vous. C'est,
quand
c'est
elle s'exprime comme ça, au moins c'est vivant, au moins ça, elle dit quelque chose. Bon, et alors, le fait qu'en en ce moment, il y ait, alors, il faut bien dire, notamment à Paris et dans la banlieue, beaucoup de gens qui soient mécontents des conséquences d'ordre pratique
de ce que seront déjà,
les deux, de ce que tout le monde le vit, de ce que seront les Jeux Olympiques. Bon, c'est plutôt malin de sa part de réagir en disant oui, mais ça va être quelque chose de formidable et on sera très fiers, etc.
La ficelle est un peu grosse parce
elle
que c'est pas un JO bashing, c'est un Hidalgo bashing.
Oui, mais
parce que au fond les JO, tout le monde va être content et puis enfin ça va être très beau. Moi, je suis très fier de voir la Concorde, les Invalides, tous ces beaux endroits.
Vous ne vivez pas à Paris.
Mais si, si, je vis en grande partie à Paris.
Ah bon,
mais
donc vous voyez la circulation.
C'est sûr, mais oui, mais ça, une fois tout le par siècle, on a le droit quand même à faire un effort pour montrer notre ville et ses qualités. Et des jeux dans la ville plutôt que seulement dans un stade, ça peut être quelque chose de très beau. Donc ces jeux, je crois que ce sera un élément de fierté.
Donc il faut arrêter d'être des panajouilleurs.
Mais il faut arrêter. Et naturellement, il aurait fallu s'y prendre un peu mieux que Mme Hidalgo s'y prise. Donc c'est plutôt un Hidalgo bashing qu'un Olympique bashing.
Qu'un JO bashing.
Bon, je l'ai connu plus mauvaise que ça.
Oui, 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 ça, naturellement, là, pour une fois, dans son fusil, il y a une balle.
Elle a au moins de la verve, ce qui n'avait quand même pas été le cas de sa campagne.
Merci.
C'est exact, mais quand même, ce qu'il faut, c'est qu'on soit des bons jouisseurs des Jeux Olympiques.
Merci Jean-Pierre Raffarin, merci Alain Duhamel.